Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Dialogue d'auteur, le podcast qui fait parler les scénaristes. Et notre invité du jour est Olivier Cohn, qui en doit l'excellente reporter, qui a aussi travaillé sur Odysseus, Le Tunnel, et qui, avant d'être scénariste, a travaillé comme lecteur, notamment à M6. Et oui, ce numéro a été réalisé en partenariat avec la Guilde française des scénaristes et la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, et enregistré à la Maison des auteurs, SACD. Bonne écoute et à très bientôt pour un nouveau numéro de Dialogue d'auteur.
Alors, je suis allé avec Olivier Cohn à la Maison des auteurs à la SACD. Bonjour Olivier.
Bonjour Dominique.
À partir de quand tu t'es rendu compte que ce que tu regardais était écrit par quelqu'un ?
J'en ai pas un souvenir hyper précis. Moi, j'ai... Le plus évident, c'est l'histoire du réalisateur, parce que j'ai été... J'ai grandi avec les critiques de cinéma, les trucs, la politique des auteurs, des cahiers, etc. Et donc... Donc c'est surtout ça en premier qui était présent, les scénaristes, le scénariste. En prendre conscience, savoir qu'il y avait quelqu'un qui était différent du réel et qui écrivait sans doute très tôt, mais dans la mesure où il y avait cette omniprésence de l'importance du réalisateur, le scénariste, je parle de cinéma là évidemment, hein,
bien sûr.
Le scénariste derrière, je me posais beaucoup moins la question. Il pouvait y avoir, je sais pas, ça a dû venir, je m'en souviens pas précisément, mais ça peut venir, j'imagine, petit à petit... par des répliques, par le dialogue, c'est-à-dire par des répliques qui te choquent, enfin qui te frappent parce qu'elles sont drôles ou parce qu'elles sont bien envoyées, etc. Et où tu sors en te disant, ah, c'est bien écrit. Et ça, tu sais à peu près que, évidemment, sauf si c'est le réal qui signe aussi le scénario, c'est plutôt a priori le scénariste qui est l'auteur de ça. Et puis je pense que, alors je parle là d'un âge genre adolescent ou un truc comme ça. Et puis après, au fur et à mesure que tu connais mieux le processus. Là, effectivement, les questions de structure, de conception de personnages, etc., là, tu peux te dire que le scénariste est pour quelque chose. Et puis, dans un troisième temps, quand tu connais mieux les coulisses, là, tout ça explose en vol et tu te dis que, finalement, tu peux jamais savoir, à partir d'un générique, qui a fait quoi, parce que tu as vu tellement d'exemples où... un scénario écrit ressemble pas à ce qu'il y a à l'écran, en fait tel dialogue qui te paraît formidable en fait a été improvisé la veille par le comédien. Enfin, encore une fois, je parle plutôt de cinéma dans ce que j'ai pu entendre. Comme il y a des anecdotes, on a tous entendu des anecdotes comme ça sur des trucs. Donc voilà. Donc c'est ça un peu les trois temps, quoi. Effectivement, réalisateur, scénariste plus tard, et puis quand tu connais un peu le moteur. Finalement, tu te dis que... Sauf pour des cas vraiment particuliers où le scénariste a une musique tellement, tellement particulière, effectivement.
Une voix importante.
Où effectivement, tu te dis, comme c'est le cas pour Aaron Sorkin, effectivement, ou d'autres, hein, mais enfin, je pense en particulier que tout de suite à lui, le débit mitraillette, les tirades, effectivement, un peu moralisatrices, ou, etc. Et donc là, tu te dis, voilà, c'est vrai que quand tu vois... Ça, c'est un truc qui m'avait frappé quand j'avais vu Social Network, c'est que toutes les critiques françaises qui sont encore à l'heure de la politique des auteurs parlent d'un film de David Fincher en dissertant sur je sais pas quoi. J'ai même, a priori, il ne trouve pas vraiment de thématique parce que je pense que Fincher n'est pas tellement un homme de thématique. Et comme les critiques, évidemment, c'est le premier truc sur lequel il se jette pour essayer de prouver qu'un réal est un auteur, c'est les thèmes. Donc un film de David Fincher, alors qu'en fait, pour quelqu'un qui connaît un tout petit peu Sorkin... Première chose qui te frappe quand tu vois 5 minutes de Social Network, c'est que c'est avant tout un film de Sorkin. Enfin, je dirais que Fincher fait un super boulot pour rendre ça passionnant et visuellement fort. Mais moi, je dirais pas que l'ADN du film tient avant tout à Fincher. Après, il y a une autre discussion. Je suis pas sûr que Fincher même soit quelqu'un qui a un ADN thématique très très profondément ancré en lui. Mais bon. C'est une autre question.
Oui, c'est pas un réalisateur scénariste pour le coup, c'est vraiment un réalisateur.
C'est vraiment un réalisateur, et je veux dire, Scorsese, à ma connaissance, n'est pas non plus scénariste, mais lui, il a un univers plus facilement, en tout cas, identifiable. Alors peut-être qu'il y a qu'il y a des couches souterraines qui m'échappent chez Fincher, mais moi je le vois plutôt comme un... Ouais, enfin, ce qu'on a coutume d'utiliser comme expression, comme un très bon artisan qui effectivement fait un super boulot formel et visuel, mais voire enfin, évidemment visuel et sonore, mais moi je suis frappé par le fait que c'est pas quelqu'un que j'identifie pas un univers de Fincher. J'ai encore vu il y a pas très longtemps, là, quelques jours,
Gone Girl
ouais. Qui m'a profondément laissé indifférent.
C'est joli. C'est très joli.
Ouais, c'est très joli. Ça laisse pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est qu'on a l'impression que voilà, on a voulu faire un tour de grand 8 qui a pas très bien marché, mais bah, c'est très élégamment réalisé. La fille est très bien. Je suis pas sûr que si j'avais lu le scénar, je me serais dit que c'était un chef-d'œuvre absolu. Mais bon, enfin, voilà. En tout cas, il est nominé aux Oscars, je crois, etc. Enfin bon, je dis ça du haut de, hein, du haut de ma grande expérience. c'est un avis de spectateur, mais en tout cas, j'ai pas été touché. J'ai pas eu l'impression que les personnages m'emportaient vraiment. Il y a un truc comme ça, hein, tout à coup, un peu mécanique, ce qui est toujours le risque de ce genre de sujet. Mais dans le genre twist, etc., il y en a d'autres, je trouve, qui se débrouillent un peu mieux.
On va revenir un petit peu sur ton très rapidement sur ton parcours. Déjà, t'es passé par quelle école, quel a été ton parcours avant de devenir, avant de rentrer chez Kappa. Comment ça s'est passé l'accession à Kappa, en fait?
L'accession à Kappa, ça s'est fait. Moi, je suis pas, je suis ni parisien ni réellement du milieu, enfin cinéma, télé, etc. Donc, j'ai fait des études de lettres en province. Je suis arrivé à Paris en voulant effectivement essayer de faire entre guillemets du cinéma d'une manière ou d'une autre. Comme j'avais plutôt un profil d'élève sage et plutôt bon élève, je me suis inscrit à une fac de cinéma.
Ouais.
Et j'ai fait quelques années d'études de cinéma.
T'étais à quelle fac ?
J'étais à Jussieu à l'époque.
D'accord.
Qui était la fac où il y avait un certain nombre de... Il y avait Jean Douchet qui officiait là-bas. Il y avait un prof formidable qui s'appelle toujours, mais qui est, je pense, plus prof, qui s'appelle Jean Collet. Et c'est un critique qui était à la revue Études. Il a fait un super bouquin sur Fellini. Et puis, il y avait un prof qui a été très important, qui s'appelait Bernard Cuau, qui est en fait le père de la réalisatrice Emmanuelle Cuau et de sa sœur Marianne Benicourt, l'actrice.
D'accord.
Et qui était, je dis il était parce que malheureusement il est décédé il y a maintenant un certain nombre d'années. Et c'était un prof extrêmement marquant. Il nous montrait des films, il nous parlait de manière très, comment dire, très simple de choses assez complexes.
Oui.
Et en plus, il a eu très directement une influence. Alors là, c'est une des rares occasions où on peut dire ça a changé ma vie, quoi. C'est que moi, j'ai rendu un jour pour un examen de fin de trimestre ou de semestre un texte sur Orson Welles et qu'il a aimé. Et il m'a proposé de le publier parce qu'il était à la revue Les Temps Modernes à l'époque. Et donc, il voulait essayer de republier quelques textes sur le cinéma, ce qui n'était plus le cas à ce moment-là. Et donc, il m'a proposé de publier ce texte sur Welles dans Les Temps Modernes, en me demandant si ça me dérangeait. Donc, je lui ai répondu que...
Et t'avais quel âge à l'époque ?
Écoute, ça devait être en 90 ou en 91, je sais pas, 22, 23 ans, un truc comme ça. Bon, enfin, j'étais étudiant, quoi.
Ouais, ouais.
Mais bon, c'était un type qui s'arrêtait pas sur ce genre de considérations, jeune, pas jeune, etc.
Ouais, voilà. Ouais, ouais.
Et donc ça m'a beaucoup touché, j'ai évidemment accepté et ça m'a donné en fait le courage d'envoyer le texte à une revue de cinéma pour essayer d'écrire sur le cinéma, d'être critique de cinéma, quoi. Enfin, d'être critique pas comme métier forcément, mais en tout cas d'essayer de faire de la critique de cinéma, puisqu'à l'époque j'avais pas le courage je savais pas comment m'y prendre pour faire autrement, pour faire autre chose, pour écrire, pour réaliser, etc. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'en fait je suis rentré à Positif, l'art du cinéma, où j'ai écrit un certain nombre d'années. Et comme Positif n'était pas une revue qui n'est toujours pas d'ailleurs aujourd'hui une revue qui paye ses critiques, parce que c'est des gens qui font ça par passion et parce qu'ils ont d'autres activités par ailleurs. Donc moi, ça m'a permis de mettre un pied dans le cinéma, d'aller aux projections de presse, dans les festivals. Enfin, c'était vraiment formidable pour un gamin d'un peu plus de 20 ans. Voilà, c'est comme ça que j'ai pu aller à Berlin, à Venise, à Cannes. Enfin, c'était formidable. Mais en parallèle, il fallait quand même un peu commencer à gagner sa vie. Il y avait les études qui étaient en train tout doucement de se terminer. En douceur, on va dire, et donc pour gagner un peu de sous, j'ai commencé à faire des lectures de scénarios. Et en fait, un ami m'a fait rentrer comme lecteur de scénario à M6. Mmh. Donc c'était d'un côté critique de cinéma à Positif, et de l'autre côté lecture de scénar pour M6, où je disais, je me souviens, parmi les premiers projets que j'ai lus, il y avait en anglais la série Highlander. Des trucs. Mais c'était les premiers objets scénarios que je lisais aussi. Hein.
Oui.
Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Je parle d'une préhistoire là.
Oui, donc tu n'avais pas accès à.
Donc on n'avait pas vraiment accès au script. Et c'était pour moi une école aussi de commencer à voir comment ça se passait. La critique, évidemment, on voit ce que tout le monde voit, on voit le film terminé. Là, c'était une manière de rentrer un peu dans les coulisses et de lire, de voir comment se présenter.
Highlander, tu avais accès à une culture quand même très anglo-saxonne. C'était écrit majoritairement par des Américains. C'était tourné entre le Canada et la France. Mmh. Donc du coup, il y avait déjà une formalisation très, très industrielle. Donc tu as déjà eu les premiers scénarios que tu avais. C'est le Final Draft, j'imagine.
Oui, dans mon souvenir, c'était ça. Ouais. Il y avait à chaque fin d'acte, il y avait un cliff, et puis la page s'arrêtait. Enfin, il y avait pas de,
D'accord.
ça continuait pas en dessous. C'était une nouvelle page après. Mais c'est pas les seuls scénars que j'ai lus. Hein. J'ai lu aussi beaucoup de téléfilms. J'ai pas un souvenir. Et je crois que j'ai lu aussi des. Je sais plus comment ça se répartissait à l'époque, mais je crois que j'ai lu aussi des films de cinéma. À l'époque.
D'accord.
Pour M6.
Pour le studio M6.
Ouais. Oh, est-ce que c'était le studio M6 à l'époque? Je sais plus comment. M6 Film, je sais plus comment
D'accord.
ça s'appelait. J'ai même lu des coproductions internationales. Je me souviens d'avoir lu un projet formidable de David Cronenberg qui s'est jamais fait. Qui s'appelait Red Cars et qui était l'histoire d'une saison de Formule 1 dans les années 60 avec l'écurie Ferrari.
D'accord.
Et donc c'était tous les thèmes à la Cronenberg, c'est-à-dire le côté mélange de l'humain et du mécanique qui était abordé dans le scénar, qui existe. Enfin, je sais pas, peut-être qu'un jour il fera ce projet, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y avait des séquences très fortes. Je me souviens qu'il y avait à un moment donné un accident avec un des pilotes et on le voyait dans sa chambre et il y avait un liquide. Qui coulait le long du lit et c'était pas du sang, c'était de l'huile de moteur en fait.
D'accord. Voilà. Donc on est bien chez Cronenberg.
On est bien chez Cronenberg. Ouais. Enfin bref, donc toute cette époque-là, c'était lecture de scénario et avec d'ailleurs comme c'était ma première employeur, je sais pas comment on dit, ma première boss, qui était à l'époque qui s'occupait de la fiction M6, c'était Bénédicte Lesage, la productrice de Mascaret Productions.
D'accord.
Qui a produit La Journée de la Jupe et plein d'autres choses.
D'accord.
Depuis. Donc voilà, et puis ensuite, parce que sinon je vais passer tout l'entretien à raconter tout ça.
C'est pas grave.
Ensuite, après quelques années ou quelques mois, on m'a proposé d'intégrer l'équipe de fiction d'M6. Donc j'ai bossé pendant une petite année comme conseiller de programme à M6, qui à l'époque commençait pas la fiction. Il y avait déjà eu quelques projets, notamment Classe Mannequin, qui était le sitcom qui avait un peu été un des premiers projets, je crois, originaux d'M6, hein, si je ne me trompe pas.
Oui.
Et donc, comme ils voulaient lancer une deuxième sitcom, moi j'avais en gros été recruté à l'époque pour suivre cette deuxième sitcom, qui racontait l'histoire d'une, d'une école de danse et de musique dans le sud de la France, genre Fame, mais en version M6 sitcom.
Et dans le sud de la France.
Et dans le sud de la France, et enfin, dans le sud de la France des studios, de, du Père en Yvelines, si je me souviens bien. Et voilà, et il y avait notamment un, pour un personnage un peu excentrique, il y avait un acteur qui débutait qui s'appelait Homer Sisley.
Ok.
Voilà, on était bien longtemps avant. Bien, bien longtemps avant Largo Winch.
Et c'est un bon souvenir, cette période-là ou...
c'est un bon souvenir parce que c'était, d'une part, c'était mon premier job à plein temps, je crois. Enfin, je veux dire, oui, à plein temps. D'autre part, c'était, c'était très sympa parce que je connaissais bien les gens de l'équipe d'M6. À l'époque, c'était Pierre Devers qui dirigeait la fiction. Et son bras droit, son numéro 2, c'était Thomas Bourguignon, qui est producteur aujourd'hui chez Quai, et que j'avais connu à Positif.
D'accord.
Parce qu'on a tous les deux commencé à Positif en même temps. Et donc on était, voilà, on était très en confiance, on s'entendait bien. Et puis il y avait aussi, surtout, un truc que j'ai retrouvé, une situation que j'ai retrouvée beaucoup par la suite et qui est très agréable, c'est que, au fond, il y avait. Enfin, en tout cas, à mon niveau, peut-être au niveau de Pierre Devers, c'était peut-être différent, mais à mon niveau, il y avait, à notre niveau, il n'y avait pas tellement de pression, parce que finalement, M6 partait de rien.
D'accord.
En fiction. Et à l'époque, c'était la petite chaîne qui montait, c'était le slogan.
Mais ils n'avaient pas de point de référence pour se dire ça me fonctionne moins bien qu'un tel.
Eh bien, surtout comme ils n'étaient pas. Oui, enfin, et puis comme ils n'avaient pas de point de comparaison en interne. Il y avait deux solutions, c'était soit on essaye de faire la même chose que ce qui marche ailleurs, en l'occurrence TF1, pour ne pas la nommer, mais il n'y avait pas les moyens. Donc il fallait trouver une autre chose, il fallait trouver une autre solution, il fallait faire autre chose, et essayer de voir si ça marche, si ça marcherait. Et ça c'est une situation qui finalement, moi j'ai l'impression, est toujours une situation... qui explique comment les choses avancent.
Oui.
C'est-à-dire que quand il y a un diffuseur qui soit doit s'imposer sur une sur la place alors qu'il n'existe pas avant, ou soit s'est imposé mais est en perte de vitesse, on est face à deux situations où il est pratiquement obligé d'essayer de changer son fusil d'épaule, ou en tout cas d'essayer de nouvelles choses. Et moi, dans l'expérience que j'ai pu avoir par la suite, ça s'est toujours confirmé. Mmh. C'est-à-dire que tous les projets là dont on va peut-être parler... enfin tous les projets en tout cas qui me paraissent avoir été même si je suis pas le mieux placé pour en parler intéressant ou en tout cas qui m'ont tenu à cœur dans pratiquement tous les cas ils ont existé dans ce genre de situation en fait.
Et puis il faut pas perdre de vue qu'à l'époque M6 ça n'avait quasiment rien à voir avec le M6 qu'on connaît aujourd'hui. C'était une chaîne qui était très différente, qui axait plus son audience sur les jeunes et les entre guillemets femmes actives. Qu'aujourd'hui on a un peu plus l'impression qu'M6 est sur la même part de gâteau que TF1, donc c'est vrai qu'à l'époque ils prenaient des risques. Elle avait une bonne tête à cette époque-là, M6, moi je trouvais,
oui,
personnellement, en tant que téléspectateur.
Alors moi il faut que j'avoue à ce stade-là qu'à l'époque je ne regardais pas la télé en fait parce que j'avais pas la télé tout simplement. J'avais pas la télé parce que j'étais cinéphile avant tout. Que la télé pour moi c'était très très méprisable en fait, il faut bien le dire. Je parle de la télé en général, hein, pas seulement la fiction télé, mais je la regardais quand je rentrais chez mes parents le week-end et en général je trouvais ça affligeant, ou alors je regardais les films qui passaient à la télé au ciné-club. Donc j'avais pas la télé, et là je vais faire une petite confidence, mais comme on est entre nous. Personne ne le saura et tout le monde s'en fout.
Non, personne
ne
l'écoute de toute façon.
Voilà, donc je me souviens du premier entretien que j'avais eu, d'entretien d'embauche à M6. Bon, c'était pas un ange délirant pour la chaîne, hein, mais j'avais quand même rencontré à l'époque Thomas Valentin, qui était le directeur des programmes, qui aujourd'hui doit être le directeur général.
Je crois. Oui, tout à fait.
Et qui m'avait demandé de parler un peu de la télé, enfin voilà, de ce qui se faisait à l'époque, est-ce que je regardais tel et tel truc, etc. Et j'avais pratiquement répondu que oui, alors qu'en fait, non, j'avais pas la télé. Et je travaillais à M6 sans avoir la télé. Donc tout ça pour dire que je voyais pas plus M6 que les autres chaînes. Par contre, je me souviens quand même des discours qu'il y avait autour d'M6, qui avait quand même une mauvaise image sur le côté patriotique, c'est-à-dire que voilà, c'était la chaîne qui diffusait, qui était le robinet à séries américaines, La Petite Maison dans la Prairie, multi-rediffusée, etc., etc. Bon. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on a oublié la période à laquelle j'y étais et surtout celle qui a suivi, où il y a eu notamment une collection de téléfilms qui s'appelait Les Combats de Femmes, que Kappa avait produite d'ailleurs, et qui abordait des sujets assez
très très sombres,
assez sombres.
Diffusé pourtant à 20h50 et c'était exactement. Pas du tout du feel good, c'était au contraire, ça rentrait dans des vrais problèmes.
Voilà. Je, c'est marrant parce qu'il y a deux jours, TF1 a diffusé le téléfilm de Claude-Michel Rome, L'Emprise sur une femme battue.
Ça fait beaucoup penser à ça.
Et qui a cartonné. Oui. Je ne l'ai pas vu encore. Hein. Voilà. Mais il y avait un film dans la série des combats de femmes qui s'appelait L'amour à vif, avec Sophie Aubry et Samuel Le Bihan, qui étaient donc des acteurs de cinéma, qui étaient réalisés par Jean-Pierre Améris, réalisateur de cinéma, et qui abordait exactement le même sujet, les femmes battues. Et il y a eu une vingtaine, je pense, de téléfilms à l'époque. Ils étaient tous réalisés par si tant est que cette distinction ait un sens, par des réalisateurs de cinéma. Et c'était à l'époque où Arte commençait à faire ses collections de téléfilms avec Pierre Chevalier, Tous les garçons et les filles, etc. Et à l'époque, je ne dis pas qu'M6 faisait des choses... aussi pointu qu'Arte, mais
c'est pas le même public.
Mais c'était pas loin. Ouais, mais
et il le faisait bien du coup. Enfin, moi je trouvais en tout cas.
En tout cas, il y avait. Enfin, je veux dire, on a du mal à on a du mal à associer M6 avec ce genre de choses.
Imaginez ça maintenant.
En fait, ça avait vraiment existé quoi. Donc voilà. Mais ça c'était ça commençait en fait quand j'étais conseiller de programme. J'ai pas travaillé sur les combats de femmes. En tout cas, pas en tant que conseiller de programme.
Pas chez M6, ouais. Mais chez Kappa en fait.
Chez Kappa, ouais. Après. Donc voilà, donc ensuite, j'ai oublié une étape, enfin bon, peu importe, c'est dans l'autre sens que ça s'est fait, mais en fait, entre-temps, je pense à ça parce que j'ai commencé M6, j'ai accepté d'être conseiller de programme à M6 parce que c'était un plein temps, et à l'époque j'avais un mi-temps qui était la sélection du Festival de Cannes où je participais au comité de sélection du Festival de Cannes sur les films étrangers. Ça a duré 2 ans, et bon, comme c'est une expérience... assez marquante, je le mentionne quand même, parce que être dans les 10 personnes, enfin il y avait moins que 10 d'ailleurs, on devait être 7 ou 8 à regarder pendant 6 mois, je pense qu'en 6 mois on devait regarder, j'avoue pas toujours en entier, mais à peu près 300 films.
Comment ça se passait? Vous étiez dans des salles de projection?
On était dans une salle de projection.
Vous ne souviez pas les DVD chez vous, enfin les cassettes?
Alors,
à l'époque chez vous?
Alors, si, il y avait une partie des choses qui arrivaient en cassette. Parce qu'il faut savoir que le Festival de Cannes visionnait tout ce qu'on lui envoyait.
Ouais.
C'est-à-dire que moi j'ai vu, parce que j'étais le petit nouveau de l'équipe, j'étais chargé de visionner, il y avait des stocks de cassettes, à l'époque c'était des cassettes, pas des DVD, hein, je précise, qu'on se répartissait, mais moi j'en avais peut-être un peu plus que les autres qui avaient fait leurs preuves, qui étaient plus aguerris que moi. Et j'ai vu des films, je veux dire, le souvenir que j'en ai, c'est des trucs qu'il y avait des gens qui réalisaient ça dans leur jardin, quoi. Et le festival les recevait et on les regardait. Alors je sais pas, il devait y avoir quand même des critères de sélection, enfin de candidature, c'est pas possible, hein, mais quand même, il y avait quand même des sacrés.
Et c'est toujours la même politique maintenant, ou il y a un filtrage que tu sais pas?
Je sais pas. Mais je pense qu'il y avait sans doute un filtrage à l'époque, simplement. Il devait y avoir un critère du genre qu'il fallait peut-être avoir déjà réalisé un ou deux ou trois courts-métrages, et puis il y a des gens qui considéraient que qu'avoir réalisé 3 films en Super 8 dans leur jardin, ça c'était faire des courts-métrages. Enfin,
t'as eu des films de vacances.
Je sais pas, mais j'ai un souvenir comme ça de très... Voilà, donc il y a eu cette expérience-là qui était formidable, et en fait, à un moment donné, c'est posé la question, est-ce que je continue là, parce qu'on m'a proposé donc d'entrer à plein temps à M6, est-ce que je continue là, ou est-ce que je continue M6, ou est-ce que je vais à M6, et il m'avait semblé que même si c'était absolument passionnant, faire la sélection de Cannes n'allait pas forcément me mener plus loin que ça.
Il n'y avait pas de possibilité d'aller.
À part si je voulais je dis ça avec plein de guillemets dans tous les sens, à part si j'avais voulu essayer de devenir délégué général du festival. Oui, mais voilà, à l'époque, ouais. Gilles Jacob était bien en place et il le faisait très très bien. Et donc j'avais pas du tout cette ambition là et cette envie là, donc c'est pour ça que, même si ça peut paraître bizarre rétrospectivement, le choix était relativement facile d'aller vers l'expérience d'aller plutôt du côté de la fabrication, quoi.
Ce qui est logique, étant donné qu'à la base ton ambition c'était de faire de la fiction.
Oui,
à l'époque, faire absolument. Du cinéma, mais c'est oui, devenu oui, faire de sûr. La fiction. Enfin, ça pouvait pas être par le comité de sélection que tu pouvais atteindre
alors,
ça. Quoi.
C'est ça, ouais, c'est ça, exactement. Et alors, il y a eu un truc, juste évidemment, je précise parce que c'est quand même important pour la suite et pour. C'est à cette année-là, quand j'étais l'année où j'étais à M6 en interne, que. Alors évidemment, je m'occupais d'une sitcom qui, bon, je ne sais plus très bien dans quel étage d'esprit j'étais, mais bon, je...
Mais c'était une quotidienne, non ? Ou c'était une hebdomadaire ?
C'était une quotidienne, je crois.
D'accord.
Donc, je ne sais plus, je crois qu'il y a eu deux saisons, mais j'en suis pas sûr. Et en tout cas, la première saison faisait 60 épisodes, de toute façon, d'emblée. Donc, c'était forcément un gros boulot. Alors, je le faisais... qu'est-ce que je faisais ? J'étais conseiller de programme, c'est-à-dire je lisais...
Tu faisais des retours.
Je faisais des retours. Ouais. Je faisais des notes qui, à l'époque, faisaient, je sais pas, presque aussi longues que que les scénars. Heureusement, la directrice littéraire de la boîte de prod était très sympa et on s'entendait bien. Elle est productrice aujourd'hui, on continue à se voir. Et donc je suivais ça et j'apprenais en même temps. Je faisais mes armes sur ce que je pensais être la dramaturgie, les personnages, comment faire pour améliorer les choses, etc. En même temps, pour être tout à fait honnête, je suis pas persuadé qu'à l'époque, j'étais complètement convaincu que la télé était un médium capable d'égaler les émotions que j'avais pu ressentir en tant que cinéphile, quoi, en voyant des longs métrages. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui a énormément changé. Quoi. Donc, pour le dire en deux mots, à l'époque, il y avait des gens qui s'occupaient des achats de séries à M6, comme toujours, enfin, c'est toujours le cas, évidemment. Et donc, ils allaient aux screenings, je pense, de Los Angeles. Mm-hmm. À l'époque, moi, je ne connaissais pas ça du tout. Et ils en revenaient et il y avait des bruits qui couraient dans la boîte. Un tel est allé aux États-Unis, il a ramené des trucs, etc. Moi, j'entendais ça d'une oreille. Et puis un jour, Thomas, je pense, qui était donc le numéro 2 de la fiction, me passe 3 cassettes et me dit « Regarde ça, ça devrait t'intéresser, c'est vraiment bien, etc. » Donc je prends ça, je regarde, et c'était 3 épisodes de série, peut-être pas les pilotes, mais enfin 3 épisodes de série qui ont vraiment changé mon regard sur... sur ce que pouvaient être les séries télé, en fait.
Tu te souviens des titres ?
Ah bah, je me souviens des histoires, ouais. Il y avait l'histoire de deux agents du FBI, un homme et une femme, qui étaient sur des dossiers mystérieux avec des éléments surnaturels.
Ça me dit rien du tout. Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Le deuxième, c'était une sitcom avec 6 copains qui habitaient dans un appartement et qui se retrouvaient souvent dans un bar près de Central Park, on
ça
imagine.
Ça n'a pas dû marquer l'histoire, tous ces trucs-là.
Et le troisième, c'était la troisième cassette, c'était une équipe de médecins dans un service d'urgence d'un hôpital américain. Voilà.
Les trois œuvres fondatrices de la série Philippe, beaucoup de Français, c'est quand même de cette génération.
Bah, c'est possible, ouais, effectivement. Moi, j'ai vraiment pris ça dans la figure en me disant, là, mon âme de cinéphile commençait à se dire, mais c'est sûr, la télé, c'est pas très glorieux, la télé, c'est pas très noble, mais quand même, je regarderai bien la suite de ces épisodes.
Les préjugés qui volent.
Qui volent un peu en éclat, ouais. Et alors, je me souviens, il y a une autre série qui a beaucoup compté. Je sais plus exactement dans quel ordre ça s'est passé. Mais il y a une série qui a beaucoup compté, dont j'entends plus beaucoup parler aujourd'hui, qui s'appelle Murder One, qui est une série de Boschko. Et je pense que Milch devait déjà être dans les parages aussi, parce qu'il y a des idées qui me semblent typiquement Mille chiennes et c'était donc l'histoire d'un avocat et de ses collaborateurs qui étaient pris dans une intrigue, dans une affaire à rebondissements multiples, en tout cas la première saison. Et la
première saison, c'était une seule affaire.
Voilà,
c'était ça. Juste après l'affaire O.J. Simpson. Quand ils ont vu le nombre de gens que ça drainait devant l'écran, ils se sont dit on va le faire.
Et voilà, effectivement.
Et on est rentré. C'était une des rares à faire du pur feuilletonnant, mais de A à Z. Ok, il y avait un élément d'enquête, un élément de l'affaire particulier à chaque épisode, mais c'était vraiment à suivre.
Exactement, et c'était absolument passionnant.
Complètement. Oui.
Les acteurs, parce qu'il y avait tout un tas d'acteurs qu'on a retrouvés d'ailleurs après dans d'autres séries, etc. Mais l'acteur principal, moi je ne l'ai pas revu souvent, peut-être pas même
Daniel
plus
Benzali,
du tout.
Daniel Benzali, un grand chauve avec une voix hallucinante.
Voilà, exactement. Qu'un copain qui avait été embauché par M6 à l'époque, je me souviens qu'il avait fait une analyse à la demande d'M6, il s'intéressait à ça. De la série avait dit que dans son analyse, il avait comparé le personnage à Bouddha. Il avait dit qu'il pensait que d'un point de vue inconscient, il y avait un truc qui jouait ce niveau-là sur les spectateurs, et je pense qu'il avait à 100% raison. Donc cette série-là, je m'en souviens très bien, d'autant plus que je l'ai revue depuis, mais je me souviens assez bien de à ce moment-là. Ça a emporté de morceaux, c'est-à-dire que je me suis dit là, tu parlais de l'importance des scénaristes tout à l'heure, là je me suis dit en termes de narration, de personnages, je vois pas ce que ça a envié à des films que je peux voir au cinéma, etc. Donc là, il y avait quelque chose, il y a eu un vrai déclic, c'est-à-dire que le fait de bosser pour la télé n'était plus un moyen détourné pour essayer d'arriver au cinéma. Ça devenait un outil qui, en soi, pouvait être intéressant et qui pouvait remplir... qui pouvait être suffisamment... avoir suffisamment de valeur à mes yeux pour que je puisse vouloir éventuellement essayer d'y bosser, quoi. Donc après M6, il y a eu une période sur laquelle je peux passer assez vite où j'ai commencé à bosser pour des producteurs, à être soit lecteur, soit faire du développement. Plusieurs expériences qui sont allées assez rapidement, avec des hauts et des bas, bon, comme ça arrive toujours, je n'ai pas la peine de s'attarder trop là-dessus, jusqu'au moment où effectivement il y a eu la rencontre avec Kappa. Où il y a eu simplement il y a eu un entretien d'embauche, ils cherchaient quelqu'un pour faire du développement, directeur littéraire, et donc j'ai rencontré Claude Chély qui à l'époque dirigeait déjà Capadrama et Béatrice Kaufmann qui est une productrice qui est malheureusement décédée il y a quelques années et qui elle s'occupait plus spécifiquement des combats de femmes.
D'accord.
Voilà, et le courant est bien passé et donc je suis rentré à Capa et on était là en 98.
D'accord.
Ça fait un bail. Donc je suis rentré à Kappa en tant que directeur littéraire et j'y suis resté jusqu'en 2004. Où là, la bascule s'est faite du côté de reporter. Et pendant ces 6 ans, j'ai bossé sur pas mal évidemment de projets, dont quelques-uns qui se sont faits, Dieu merci. Alors il y a eu quelques téléfilms, moi j'ai bossé un peu aussi sur quelques combats de femmes en tant que directeur littéraire, conseiller littéraire, mais j'ai surtout bossé sur deux séries et un téléfilm. La première c'est Police District, qui avait été initiée par Claude Chély, qui avait appelé le scénariste Hugues Pagan, qui était plutôt d'ailleurs romancier à l'époque, mais qui est un ancien flic qui avait envie de faire une série sur des flics et une série un petit peu plus, disons, j'aime pas du tout le mot réaliste donc je vais essayer de pas l'employer, mais une série plus âpre, un peu plus rugueuse que celle qu'on voyait à l'époque, avec des personnages un peu plus tranchés, des situations un peu plus sans concession, disons. Ça c'était pour M6, et puis ensuite il y a eu une expérience formidable sur une série pour destinée à un jeune public, un public ado, pour le daytime ou l'access prime time d'ailleurs,
17h30,
18h30, Il y a eu tout un questionnement ensuite autour de l'horaire, mais peu importe. C'était une série qui s'appelait H Sensible et qui, au départ, on avait fait un développement, une année de développement avec les auteurs parce qu'on répondait à un appel d'offres France 2 cherchant à l'époque un 52 minutes hebdomadaire pour concurrencer Sous le Soleil. On n'a pas eu l'appel d'offres au bout d'un an. On avait travaillé sur évidemment une bible, deux épisodes sur six, etc., qui avaient été dialogués. On n'a pas eu l'appel d'offres, c'est une autre boîte qui l'a décroché. Mais par contre, ils avaient aimé les personnages, le concept. Et comme ils étaient dans la panade sur leur tranche d'accès, de nouveau le schéma dont je parlais tout à l'heure, ils avaient tout essayé, ils avaient demandé à B-Production de proposer un projet qui n'avait pas marché. Et donc ils se sont dit, ben voilà, si AB n'arrive pas à faire un 26 minutes d'accès, il faut qu'on essaye quelque chose de radicalement différent. Et donc nous, on avait un projet qui était assez différent, des sites comme ils sont plus traditionnels. On ne voulait pas de rire enregistré, on voulait des vrais décors, etc. Et donc on a adapté ce concept de 52 en 26. Et on est passé de 6 fois 52 à 50 fois 26 minutes.
Au niveau de tonalité, c'était déjà... c'était identique, il n'y a pas eu de grosses différences.
Dans mon souvenir, c'était assez proche, oui.
D'accord.
C'était un mélange de comédie et d'émotion, de comédie et de...
Ce qu'on appelle un peu dramédie aujourd'hui.
Ouais, ce qu'on appelle dramédie et surtout ce qui me semble assez proche de l'univers de son principal artisan, c'est-à-dire qu'en fait il y avait une équipe d'auteurs, mais il y a un auteur qui est devenu au fur et à mesure directeur de collection, qui s'est imposé un peu directeur de collection parce que son travail le rendait ça assez évident, et c'était Michel Leclerc qui a fait depuis des longs métrages, dont le fameux Nom des gens, qui a eu deux Césars. Et finalement voilà, son univers était déjà en germe à ce moment-là, et il s'y est un peu exercé dans H Sensible. C'est marrant parce que j'ai vu là il n'y a pas très longtemps le Fais pas ci, fais pas ça, la dernière saison, mm-hmm. dont il est l'un des deux directeurs de collection avec Cathy Vernet. Et j'ai retrouvé des. Enfin, il y a peut-être que moi, hein, mais j'ai retrouvé des situations, une ambiance qui m'a rappelé ce qu'il avait fait à l'époque.
T'as retrouvé sa patte, son influence sur le travail.
Ouais, espèce de mélange comme ça de. Le moment où on éclate de rire et puis en même temps il y a une petite larme à l'œil qui arrive, etc. Enfin voilà, il est toujours très 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 fort pour ça, Michel. Donc voilà, donc ça c'était les deux moments. Il y en a eu d'autres, hein, il y a eu d'autres moments. Je parlais tout à l'heure d'un téléfilm, j'ai aussi bossé sur, pas tout à fait jusqu'au bout parce qu'après les choses ont changé mais sur le téléfilm qu'a réalisé finalement Thomas Vincent, mais qu'a écrit Pagan. Sur le sac pour Canal+, c'était dans leur ligne éditoriale de faire des unitaires sur des sujets entre guillemets brûlants et politiques. Là encore, pour se distinguer des autres chaînes qui le faisaient pas vraiment à l'époque. Et donc voilà. Et donc il y a eu toutes ces expériences. Il y en a eu d'autres à Capa qui étaient très bien, mais voilà, ça c'était un peu ce qui était le plus marquant. Et puis à l'époque, bosser sur Police District, c'était un auteur. Hugues Pagan qui était vraiment c'était vraiment très fort de bosser avec lui, quoi. Il écrivait très bien.
Il t'a beaucoup appris directement ou indirectement?
C'est surtout beaucoup de plaisir de lire les épisodes, quoi. C'est-à-dire que c'était pas tous les jours qu'on lisait des épisodes de projets où on décrochait le téléphone et on fermait la porte du bureau pour pouvoir avoir une heure tranquille devant soi pour bien déguster l'épisode, et on se reparlait avec Claude Chilly. On avait tous les deux ce réflexe là, quoi, quand on recevait les épisodes de Police District. Donc ouais, non, c'était un bon souvenir, et effectivement, ouais, j'ai je sais pas si j'ai appris au sens où je réussirais aujourd'hui à, entre guillemets, à appliquer des choses que j'aurais appris de Pagan, mais c'est sûr que je suis toujours admiratif de... Il y a des passages comme ça qui me restent en tête, quoi, qui me restent à l'esprit, et je me dis, oui, c'est vrai que c'est comme ça que ça se passe, d'écrire un scénar, quoi. Voilà.
Donc après, il y a eu Reporter.
Pour reprendre une expression de Pagan, je suis arrivé en tête à un concours de circonstances, donc Donc voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de pouvoir faire la bascule de la production à l'écriture sur un projet de prime time pour Canal+, ce qui s'apparentait pour moi un peu à décrocher la lune, quoi. Donc ça, c'était une grande chance.
Entre le moment où tu es parti de Kappa et où t'as, comment dire, où tu t'es lancé sur Reporter, il y a eu une période où tu as lancé des projets, des idées de projets partout?
Non, ça s'est fait de manière très...
Tu as fait la transition au moment où, quasiment où tu es parti.
Ouais,
d'accord,
ouais,
ok.
Ouais.
Donc Reporter a eu 2 saisons. Comment ça se passait au niveau de l'écriture de la série? On en avait déjà parlé à l'époque ensemble, mais on va... revisiter ça pour ceux qui n'étaient pas au courant ou qui n'ont pas écouté à l'époque les 2000 interviews qui existent sur le village. Est-ce que vous aviez une salle d'écriture? Est-ce que chacun travaillait chez soi, chez Kappa? Comment vous aviez des réunions pour définir les arches? Comment ça se passait en fait?
Une fois que Canal avait dit OK pour le projet, il y a eu déjà une première phase de travail que j'ai faite tout seul, qui était une phase de... parce que le projet faisait que 10 pages, et voilà, et c'était un sujet, enfin en tout cas, moi, dans la conception que j'avais du travail, c'était un truc énorme. J'étais pas réellement journaliste, j'étais encore moins politicien, et or, il fallait quand même assez bien connaître les deux mondes pour pouvoir se lancer dans le projet, et même, indépendamment de l'écriture des scénarios, pour la conception des histoires, des personnages, etc. Donc, il y a eu d'abord tout un travail de documentation, documentation par les lectures, mais beaucoup documentation par les rencontres. Ça, c'était l'avantage d'être dans une agence de presse, parce que du coup, les contacts étaient plus faciles et plus nombreux.
C'était vraiment la bonne boîte de prod pour faire ce projet-là.
Voilà. De ce point de vue-là, en tout cas pour la doc, c'était très bien. Donc, j'ai pu rencontrer pendant plusieurs mois, j'ai rencontré des journalistes, des faits diversiers, des journalistes politiques. Des journalistes de télé, des journalistes de presse écrite, de radio. Enfin voilà, j'en ai rencontré, pas des centaines, mais quand même, je pense, une bonne vingtaine, hein, à mon avis, avec des entretiens enregistrés. Enfin bref, un boulot assez approfondi, qui m'a servi à préciser et les personnages, notamment, à mieux les cerner, à me donner de nouvelles idées, à valider des idées que j'avais eues précédemment et dont j'étais pas tout à fait sûr. Voilà, donc ça a duré plusieurs mois. Il y a eu à l'issue de... Alors,
t'as remis en cause beaucoup de choses quand tu t'es heurté au réalisme, entre guillemets, de la situation. Est-ce que tu t'es dit, ah merde, cette piste-là, je peux pas l'explorer?
Non, alors sur l'idée du réalisme, encore une fois, il faudrait... J'ai pas préparé de réponse par rapport à ça, mais il faudrait faire un sort à ce mot une fois pour toutes, parce que je l'ai tellement entendu, que ce soit sur Police District, sur H Sensible et même sur Reporter, que pour moi c'est très compliqué de... Mais bon, non, ce qui s'est passé, le truc principal sur Reporter, c'est qu'au départ, une fois que j'avais rendu le document qui avait servi à décider Canal pour notre projet, qui était plutôt une sorte de galerie de personnages. La demande de Canal, puisque c'est eux qui, à l'origine, voulaient faire une série sur des journalistes, c'était d'essayer de raconter. À l'époque, on était en 2004, c'est-à-dire pas très longtemps après le fameux 21 avril 2002. Le Pen au deuxième tour, etc. Et Canal voulait raconter l'élection présidentielle de 2002 et ce qui avait précédé à travers le prisme des journalistes. Donc en gros, le premier travail de documentation était fait dans l'optique d'écrire une série de, je pense à l'époque, ça était peut-être 6 épisodes, peut-être 8, je ne sais plus, qui était prévu, et de raconter à travers ça, en gros, les 6 mois qui ont précédé l'élection de 2002.
D'accord.
Donc, en parallèle de la documentation que je faisais, j'avais une journaliste de Kappa qui dépiautait à ma demande les journaux, notamment, les magazines, les news magazines, les quotidiens, etc., qui dépiautait par catégorie de sujets, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était passé pendant la campagne politique pour les présidentielles, Qu'est-ce qui s'était passé sur le plan des faits divers? Qu'est-ce qu'il y avait pu avoir comme passerelle entre les deux? Qu'est-ce qui s'était passé sur le plan international? Quelle passerelle il y avait pu avoir entre les deux? Qu'est-ce que les journalistes avaient fait, etc. Il y a eu un certain nombre, notamment dans la campagne, hein, comme dans toutes les campagnes présidentielles, il y a eu un certain nombre d'événements pivots. Je prends un exemple, Jospin qui s'envole, qui est en plein vol dans un avion, parle d'un Chirac vieilli en off à des journalistes, ce qui se retourne contre lui quelques jours plus tard, parce que contrairement à ce que les journalistes avaient, ce à quoi les journalistes s'étaient engagés, ça n'est pas resté une info en off, mais ça a été publié. Bon, ça par exemple, ça pouvait tout à fait faire matière, évidemment, à un épisode, à une situation dans une série sur des journalistes. Mais il faut bien comprendre que si le but était de parler de cette élection réelle, il fallait être...
Il fallait quand même faire de la fiction.
Il faudrait faire de la fiction, mais en même temps, il fallait être du coup impeccable et inattaquable sur ce qui était dit. C'est-à-dire que non seulement il fallait se souvenir, pour prendre l'exemple, garder l'exemple de Jospin dans l'avion, il fallait connaître cet épisode, il fallait pouvoir le raconter, mais il fallait savoir aussi, il fallait apprendre les coulisses des articles, par quel biais l'info était sortie, qui avait décidé de le sortir, comment, etc.
Vu que vous étiez à partir du prisme des journalistes, c'était obligé de savoir ça, quoi.
Voilà. Donc, là, ça commençait à se poser les questions, puisque on parle d'un vrai personnage, Jospin, on parle d'une vraie campagne, celle de 2002, on parle de vrais articles, donc à un moment donné, il ne faut peut-être pas forcément parler des vrais journalistes, mais il faut être tout à fait crédible sur les... Alors ça posait déjà un premier problème, parce que ça voulait dire que sur toute la série, c'était un boulot mais monstrueux pour enquêter sur les coulisses des articles, par exemple.
C'est-à-dire et du coup, c'était un vrai biopic ou c'était un genre on va parler de ça, mais avec des personnages qui n'ont pas les mêmes noms? Ou est-ce que vous auriez eu dans la série un Lionel Jospin
Le but était qu'il y ait un Lionel Jospin. Par contre, le but était pas forcément qu'il y ait des noms de journalistes réels, mais que les situations soient les vraies.
Les grands personnages.
Je dis n'importe quoi. Imaginons que dans la série, les paroles de Jospin. Ce soit un patron de presse, celui du Figaro par exemple, qui ait décidé de les publier pour descendre Jospin. Imaginons qu'on ait mis ça. Si ça ne correspond pas à la vérité, on est quand même mal.
Oui.
À mesure, bon. Alors ça, c'était un problème. L'autre question qui se posait, c'est que moi, j'ai plus ou moins élaboré des arches sur ce principe. Et quand on s'est rendu compte en allant voir Canal que finalement... les grands climax de l'arche de la saison 1, c'était éventuellement ce truc du off de Jospin ou la démission du directeur de cabinet de Jospin, Olivier Schramek, parce que ce qu'il n'avait pas prévenu, je me souviens bien qu'il n'avait pas prévenu Jospin qu'il allait démissionner, ce qui avait foutu un pataquès dans le gouvernement pendant quelques semaines et qui avait fait les gorges chaudes des journalistes pendant quelques jours. Ça, c'était censé être un des climax de la saison 1. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée pour faire une série qui éventuellement, en plus...
Des climax qui sont déjà connus par tout le monde, quoi, c'est ça ?
Non, qui sont connus par tout le monde et puis qui ne sont pas d'une intensité non plus exceptionnelle, quoi.
Oui.
Il y avait d'un côté cette perspective-là, pour faire une série, encore une fois, qui n'était pas censée être une mini-série. Hein. L'un de nos grands repères à l'époque, c'était une mini-série de... j'ai un trou de mémoire. Le réalisateur anglais Peter qui a fait Warriors, Peter Kosminski
ouais.
Voilà. Il avait fait un 2x90, je crois, sur qui s'appelait les années Tony Blair, qui était passé sur Arte, The Project. Et voilà, ça pouvait être un peu inspiré de ça. C'est-à-dire que là, il y avait un fond, une campagne réelle de Tony Blair, avec des personnages de fiction intégrés dedans, mais c'était un 2x90 minutes, ou un 4x52, je ne sais plus.
C'était pas un 6x52. Voilà,
non seulement c'était pas un 6x52, mais surtout, c'était pas censé avoir plusieurs saisons.
Bien sûr.
Là, tout à coup, on se mettait dans une situation où on se disait, d'un côté, on a un thème qui est très intéressant, qui n'a jamais été vraiment traité en fiction, et encore moins en série, les journalistes, le journalisme, et leur rapport avec la politique. Donc d'un côté, on a ce truc hyper riche, et d'un autre côté, on se met une sorte de ceinture de chasteté, si j'ose dire.
Vous êtes obligé de suivre l'actualité pour faire une saison 2, quoi, tout simplement.
Bah oui, mais même la saison 1, on se met dans un carcan où finalement, on sous-dramatise des choses, etc.
Ouais.
Et donc là, on a proposé une alternative, et on s'est dit, est-ce qu'on peut pas essayer de...
Combien de temps il y a eu de développement sur cette version-là? Combien de temps ça a duré ?
Ouais, ça a duré. C'est-à-dire que comme il y a eu en parallèle la documentation que j'ai faite sur le métier qui m'a servi aussi pour la suite, moi je dirais que ça a quand même duré plusieurs mois. Ça a duré, je ne sais pas, en juin, juillet, août, septembre, 3-4 mois.
D'accord. Pas de script écrit.
Je ne sais plus, une vingtaine de pages d'arches à peu près. D'accord. Comme ça. Bon. Donc voilà, donc on se dit, mais peut-être qu'il faut laisser un peu exploser les barrières. Imaginons qu'on est dans un monde de fiction, mais un monde de fiction qui est le jumeau d'une autre, qui fonctionne exactement pareil. Mmh. C'est-à-dire que les mécanismes sont les mêmes que le monde réel.
Les partis politiques ont les mêmes caractéristiques.
Enfin, voilà, c'est pas forcément les mêmes noms.
Voilà.
Mais en gros, nous, ce qui nous importe, c'est de dire des choses vraies ou vraisemblables sur des mécanismes, sur comment ça fonctionne les journalistes et comment ça fonctionne les politiques et comment ça fonctionne les journalistes et les politiques ensemble. Et donc, c'est devenu ça, le projet, finalement. Donc là, pour revenir à ta question de départ sur l'organisation de l'écriture, je refais donc une nouvelle Bible. Je commence à travailler sur des arches, sur une nouvelle arche, à partir de là. Donc c'est là que, si je me souviens bien, c'est là qu'apparaissent les journalistes enlevés, le trafic d'armes, etc. de la première saison. Qui était dont l'une des affaires inspiratrices était l'Angola Gate, entre autres. Donc je commence à travailler là-dessus. Et puis, on est là à la fin de l'année 2004, début 2005, je ne sais plus, février, mars, je contacte trois autres auteurs pour mettre en place un atelier d'écriture. Donc là, on se retrouve effectivement dans une pièce à Kappa. On fait des tableaux, on répartit les choses qui sont dans le document que j'ai écrit par épisode, on en discute, on complète, on modifie des choses, on aboutit finalement au bout de plusieurs semaines à un tableau à peu près, un tableau comme ça n'est jamais rempli, mais un tableau où finalement pour chaque épisode se dégage quelques segments, quelques fragments d'intrigue pour chaque personnage principal, et puis quelques autres situations. Et puis à ce stade-là, on se répartit les épisodes, et on écrit, on part chacun de notre côté, écrire un synopsis.
Et le détail de chaque épisode, vous rentriez déjà dans les détails des épisodes, ou c'était vraiment juste le cheminement d'un personnage, ou vous travailliez scène par scène?
Non, on travaillait pas scène par scène au sens où on n'allait pas... Quand on a fini cette étape-là dont je parlais, on n'avait pas les 40 scènes de l'épisode, ça c'est sûr.
D'accord.
On avait les grands moments, les grands moments pivots qui servaient dans l'arche générale.
Oui.
C'est-à-dire c'est l'épisode où il arrive telle chose par rapport à l'arche de tel personnage, de tel autre, etc. En général, on avait à peu près 3 points au minimum pour chaque personnage, c'est-à-dire point d'entrée dans l'épisode, début, milieu, fin, quoi, en gros.
D'accord.
Pour avoir la mini-arche du personnage dans l'épisode à l'intérieur de sa grande arche dans la saison. J'ai fait un document, moi, ensuite, pour chaque... ça, j'ai l'habitude de faire ça quand je dirige une écriture. J'ai fait un document récapitulatif pour chaque épisode qui servait pour tous les scénaristes, où chacun avait sa feuille de route, en fait. C'est-à-dire que ça récapitulait, en gros, ce qu'on s'était dit et ce qu'on avait arrêté pendant les arches. Ça développait un peu deux, trois trucs quand j'étais assez convaincu qu'il fallait aller dans telle direction sur tel ou tel point. Et donc chacun avait une sorte de feuille de route qui n'était pas, encore une fois, un scène à scène, et qui n'était pas ce qu'on appelle aujourd'hui un fil à fil, que pour certains, ils utilisent ce terme-là. Moi, ce que je dirais déroulé, mais enfin bon, peu importe. Donc ça n'en était pas un, mais c'était déjà... il y avait l'esprit de ce qui devait être la trajectoire de chaque personnage dans l'épisode, et puis il y avait des scènes importantes, quoi. Voilà, tel personnage, je sais pas, c'est l'épisode où tel personnage se retrouve face à tel autre, c'est l'épisode où ils ont une explication, etc. Bon. Ce qui, d'une certaine manière, déjà devait, à mon avis... Un reporter, on était à 6-7 personnages principaux.
Mais c'était des épisodes bien denses, quoi, du coup.
Voilà, on avait déjà, je veux dire, sans avoir le fil à fil, il y avait, moi je dirais, entre 15 et 20 scènes, non pas écrites, mais déjà mentionnées. C'est-à-dire que l'auteur qui reprend ses notes, c'est déjà qu'il y a à peu près ces scènes-là qu'il faut qu'il ait à l'esprit.
Et puis après, c'est des logiques, vu que c'est des logiques de personnages, il n'y a pas de l'agencement quand se passe quoi.
Non.
Et du coup, c'est au scénariste de le trouver.
Voilà, c'est au scénariste de trouver la structure,
voilà.
De savoir... Alors parfois, après, tout dépend. Hein, évidemment, c'est des choses qui sont adaptables, enfin, je veux dire, qui dépendent des cas de figure. Si pendant les discussions, il y avait une idée lumineuse et que tout à coup, on disait, bah oui, c'est comme ça qu'il faut commencer l'épisode... Le teaser, ça va être ça,
oui.
Ou le cliff, ça va être ça.
Oui, bien sûr.
Ça arrivait qu'on le trouve souvent d'ailleurs. Hein, je crois que c'était même, comme c'était un peu une demande aussi de la prod et de la chaîne, c'était peut-être pas encore aussi présent que ça dans les discussions par rapport à aujourd'hui, où là, je crois que c'est. Je veux dire, quand on est à un stade d'atelier d'écriture, on ne peut pas se passer de mentionner.
Oui.
Très vite, c'est pratiquement les premières choses dont certains auteurs discutent.
Exactement.
Cliff teaser, bon, moi, je ne suis pas forcément de cette école-là, mais ça dépend. En tout cas, je pense que c'est jouable. Mais là, je ne sais plus si on l'avait systématiquement ou si ça pouvait être à l'auteur de le trouver. Voilà. Donc après, chacun partait avec son synopsis. Moi, je relisais ensuite tous les synopses. Je voyais les auteurs.
Alors, ils partaient, ils écrivaient leur synopsis détaillé. Combien de pages à peu près? Une quinzaine?
Ah ouais, non,
dizaine,
là, en fait, on avait, si je me souviens bien, on avait négocié avec. Avec Canal, pour ne pas avoir trois étapes, c'est-à-dire pour ne pas avoir synopsis, traitement, dialogué, on avait ce qu'on appelait des synopsis développés, ou qui étaient des traitements, quoi, en gros, à peu près. Enfin.
Qui étaient fournis à Canal+.
Oui, on devait être à 25-28 pages par...
Ah ouais, quand même. C'est...
Ouais, disons 25 pages. Ce qui nous a donné d'ailleurs souvent des épisodes trop longs par la suite. Hein. Il y avait probablement une...
Ça paraît énorme en synopsis.
Ouais, il y avait probablement une... Peut-être, on pourrait appeler ça certainement une immaturité de ma part là-dessus. Voilà,
peur de ne pas en mettre assez.
Oui, et puis tout simplement, y avait beaucoup de personnages. Enfin bon, voilà.
Ouais.
J'espère que ça avait un bon côté, qui était peut-être de densifier les épisodes, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu souvent ce cas de figure, ouais. Donc voilà, donc ensuite V1, ensuite je vois chaque scénariste pour lui faire retravailler son synopsis. En général, il n'y avait pas de V1 qui partait à la chaîne.
Mm-hmm.
Ensuite, à la V2 ou la V3, je ne sais pas, ça partait à la chaîne. Il y avait des remarques. Et puis en général, si mes souvenirs sont bons, j'espère que je ne me trompe pas, ensuite on passait au dialogué. Et là, rebelote, version 1, remarque aux auteurs, version 2... Je ne sais plus si je lissais les épisodes avant de les envoyer à la chaîne ou s'il y avait d'abord un envoi à la chaîne, des remarques, et où ensuite, moi, je reprenais tout, c'est-à-dire les
et
remarques de la chaîne.
Général,
ouais, je ne sais plus. Enfin bon, en gros, c'était ça l'idée, quoi.
D'accord. Et ouais. Ça va se chevaucher un peu avec ma question. Tu as tendance à beaucoup réécrire ou pas tant que ça, finalement?
Alors là,
ça dépendait.
Ça dépend complètement. Je veux dire, il y a...
Mais t'as pas l'obsession de mettre absolument ta voix sur tous les dialogues, et, comme certains scénaristes peuvent avoir.
Je sais pas si j'ai une voix déjà pour commencer. mais surtout. Ouais, non, mais je crois. Enfin, je sais.
C'est pas forcément dans ta nature de réécrire massivement.
Je veux dire, quand on a cette possibilité-là, on s'en prive. Enfin, je veux dire, on s'en prive pas. Si on a le moindre doute sur et la moindre conviction que tel que c'est là, ça pourrait être différent ou mieux, bah voilà, on le fait. Après, moi, j'ai constaté, ce serait archi faux de dire que j'ai pas eu besoin de réécrire beaucoup, et ce serait archi faux aussi de dire que j'ai toujours eu besoin de réécrire beaucoup. C'est-à-dire que ça dépendait vraiment des textes. Mmh. Il y a des textes, moi, dans mon souvenir, il y a des textes dont j'ai réécrit probablement 50%, d'autres dont j'ai réécrit peut-être... 5%, voire moins. Donc voilà. Donc ça dépend de plein de trucs. Ça dépend du temps qu'il fait dehors. Ça dépend de plein de trucs.
Vous avez eu le même fonctionnement sur la saison 2 ou il y a eu des
différences? Je vois pas de différence. On a eu le même fonctionnement grosso modo. Non, il y a eu une différence un peu. C'est que les arches narratives de la saison 2 ont été de A à Z écrites en collaboration avec Alban Guitny. Donc là, quand on a appris que la saison 2 se faisait, on s'est mis tous les deux autour d'une table, enfin bref, dans une pièce, et on a gambergé, on a fait du brainstorming, on a, voilà, tous les deux. Ce qui n'avait pas été le cas sur la saison 1, où c'était un peu plus hybride, c'est-à-dire qu'il y avait une partie de l'arche qui existait déjà parce que je l'avais élaborée, et puis une autre partie qui était sortie un peu de nos...
Nos interactions.
Enfin, après, il y a un moment donné où ça devient compliqué de dire qu'est-ce qui fait partie de l'arche originelle, qu'est-ce qui a été amené, est-ce que ce qui a été amené, c'est plutôt de l'ordre de l'arche, ou est-ce que c'est de l'ordre de l'élaboration des synopsis. Enfin, bon, ça devient des considérations un peu complexes.
Donc tu dirigeais tout l'ensemble de l'écriture. Une fois que c'est rentré dans le tournage, par contre, on en avait discuté, c'était le duo réalisateur-producteur qui...
Globalement, oui.
La suite,
globalement, quoi. Oui. Après, il y a eu des... Notamment dans la saison 2, il y a eu des moments où j'ai été appelé pour réécrire des choses, ouais. pour retravailler un peu ici ou là. J'allais dire encore heureux. Mais il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas vraiment eu d'échanges. Enfin, si, il y a eu des échanges, bien sûr, avec le réel. Hein. Moi, j'assistais à chaque fois, pour chaque épisode, si je me souviens bien, il y a eu une réunion, saison 1 et saison 2, préparatoire avec le réel, pour repasser un peu les scènes, pour souligner des trucs, etc. Après, moi, je suis allé sur le tournage de temps en temps, j'y étais très bien accueilli, pas de problème, mais j'avais pas un rôle décisif.
Il n'y avait pas ton fauteuil avec ton nom dessus.
Non. Et je ne disais pas à l'oreille du réalisateur.
Bouge un peu la caméra.
Voilà. Non.
T'étais présent pendant le montage ?
Non, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout. La première saison, j'ai vu les versions définitives parce que j'avais choisi ça.
D'accord.
La deuxième saison, j'avais demandé à avoir des versions de travail. Mais j'ai pas eu beaucoup mon mot à dire à ce stade-là non plus.
T'as pas eu beaucoup ton mot à dire parce que tu considérais que ton intervention n'aurait pas changé grand-chose, ou t'as pas eu ton mot à dire parce qu'on t'a fait comprendre que c'était le travail du réalisateur ? Est-ce que tu peux en parler déjà ?
Ouais, non, mais parce que c'était le travail du réalisateur et surtout du producteur. C'est Claude. Claude, le montage, c'est un moment où il est très présent, très impliqué. C'est quelque chose qu'il connaît très bien par sa formation et son travail de... C'est quelque chose dans lequel il est très bon aussi. De toute façon, il a vraiment un œil pour ça. Donc bon, voilà, pour des raisons qui lui sont propres, il préférait plutôt que... Je pense, puis il y a toujours après, on peut toujours invoquer des histoires de timing, il faut que les PAD soient prêts à temps, on n'a pas trop le temps de discuter, etc. Donc voilà, donc non, c'était pas un choix délibéré de ma part, mais c'est vrai que j'ai pas été extrêmement présent sur le...
Depuis, ton nom est apparu au générique de série que tu n'as pas... créé,
oui.
En fait.
Mm-hmm.
Est-ce que tu penses que c'est une conséquence un petit peu dans l'esprit des gens de ta double casquette, en tout cas ta double carrière, celle d'avant d'être scénariste, d'être lecteur, de se dire que c'est quelqu'un qui est capable de lire, de faire des retours et de reprendre des projets? Est-ce que tu penses que c'est pour ça que les gens viennent te chercher, pour parfois modifier des choses, changer des...
Non, j'ai pas l'impression d'avoir repris
d'accord
des tant de projets que ça qui était déjà préexistant, en fait.
D'accord.
C'est-à-dire que...
T'as pris la suite, en fait.
Ben oui, alors pour le dire en deux mots rapidement, il y a eu Odysseus, où là j'ai bossé sur les épisodes 7 à 12.
Il y avait des arches existantes ou pas?
Non, il n'y avait pas d'arches existantes.
D'accord, ok. Ouais, je pensais qu'il y avait
déjà... Je suis co-auteur des arches des épisodes 7 à 12, entendons-nous bien, soyons très clairs là-dessus.
Bien sûr.
Je suis co-auteur des arches avec Flore Cosignetz. On a été contactés tous les deux par la production pour travailler sur la deuxième partie qui à l'époque devait être une saison 2,
oui.
Mais qui s'est avérée être la deuxième partie de la saison, de l'unique saison. Et donc on a été contactés pour travailler sur la saison 2, arche et direction d'écriture.
D'accord.
Ce qu'on a fait, de fait. Voilà, pas tout à fait jusqu'au bout, puisqu'ensuite il y a une étape de réécriture par le réalisateur. Mais en tout cas, sur les arches, on y a travaillé. Voilà. C'était d'autant plus marrant que les arches des épisodes 7 à 12, l'épisode 6 s'arrêtant à la fin de l'Odyssée, il fallait inventer, en toute modestie,
la suite de l'Odyssée.
Et je me souviens que quand j'ai demandé à la production pour combien de temps, quand ils nous ont dit ça, combien de temps on avait pour proposer un premier jet. Et ils nous ont dit, ben, ce qui serait super, c'est qu'en fait, on a une réunion à Arte dans 3 semaines, et si on pouvait avoir un premier jet dans 3 semaines, ce serait
3 semaines, c'est pas mal, ouais, pour inventer la suite de l'Odyssée.
Et donc,
ils vont te contacter pour la suite d'Hamlet ou,
Je sais pas. Non, mais cela dit, trêve de, enfin, sans rire, c'était une super expérience.
Ouais.
Ces 3 semaines ont été formidables. Avec Flore, on a eu l'occasion de bosser vraiment avec beaucoup de plaisir sur ce projet-là et à cette étape-là, et ça nous a permis de lire des tas de bouquins qu'on avait rêvé de lire pendant des années, qu'on n'avait pas eu le temps de lire sur le tour d'Odyssée et de tout ça.
C'est déjà un univers qui t'était familier ou
Bon, j'avais lu les bouquins parce que avec mes études de lettres, bon, c'était un truc qui était. Mais par contre, j'avais pas vraiment creusé tout ça. Et alors, on a vraiment, c'était vraiment très gratifiant parce qu'en fait, on a à la fois lu des choses pour se donner des pistes, des idées de réflexion, etc. Il y avait déjà un petit peu quelque chose qui était dessiné, mais c'était très vague. C'était de se dire, voilà, il faut qu'il y ait une opposition forte, entre guillemets, oedipienne, entre Ulysse et Télémaque. Ça, c'était quasiment, enfin, je veux dire, inévitable avec les 6 épisodes précédents tels qu'ils étaient écrits, et c'était de toute façon une piste intéressante. Mais pour le reste, c'était à nous de voir. Et donc on a discuté, bon, évidemment, comme toujours dans ces cas-là, pendant des journées entières. On a lu des trucs, on s'est échangé des trucs, etc. Et ce qui était vraiment sympa, c'est toujours bien quand ce genre de choses arrive, ça donne du baume au cœur et du courage. C'est que je me souviens notamment d'un bouquin qu'on a lu à la fin de notre processus et quand on avait déjà quasiment élaboré les arches, en tout cas sous cette forme-là, hein, elles ont évidemment bougé encore un peu après. Et le bouquin validait les options. Enfin, c'était un bouquin d'une chercheuse italienne qui avait travaillé sur l'Odyssée et sur Ulysse. Et en fait, elle décrivait des pistes qui étaient des pistes d'analyse de l'histoire, qui en fait rejoignaient complètement ce qu'on avait imaginé. Donc c'était vachement agréable de se dire qu'on n'était pas parti complètement dans le décor, en délirant, etc. Bon. Maintenant, après, c'était un projet, une sorte de paquebot. Un peu énorme, donc là c'était ensuite, ça c'était la phase intimiste du travail, on était deux dans une pièce. Après, il y a eu évidemment plein d'autres phases, et puis il y a eu la phase du travail en atelier, etc. Bon. Donc voilà, tout ça pour dire que non, sur l'Odyssée,
oui, il n'y a pas eu une reprise d'un
travail.
Non,
il n'y a pas eu une reprise d'un travail effectué, et ensuite, que ce soit sur le tunnel ou sur le projet, je ne sais pas si le titre va rester, No Second Chance, adapté de Darlan Coben pour TF1. Dans les deux cas, j'ai fait partie de l'équipe d'écriture. Voilà, j'ai écrit un épisode dans les deux cas. Et donc, il n'y a pas non plus là de reprise d'un travail précédent. Enfin, au-delà de l'adaptation, hein, bien entendu, du roman de Coben dans le cas de No Second Chance et de la série scandinave dans le cas du tunnel.
Non, c'est peut-être un peu naïf de ma part. Tu as eu contact avec Arlan Coben ou pas du tout?
Si, il est venu plusieurs fois à Paris et on l'a rencontré.
Comment ça se passe?
Deux, trois fois.
Il discute avec vous, il voit ce que vous êtes en train de travailler. Est-ce qu'il lit ce que vous faites? Il est impliqué ou pas vraiment?
Il était impliqué. Oui, il avait. De toute façon, il y a eu plusieurs étapes, comme souvent sur les projets, il y a eu plusieurs étapes sur ce travail. Le projet avait commencé d'une certaine manière avant que l'équipe d'écriture soit réunie, et il a continué après, puisqu'il y a eu des phases de réécriture après que l'équipe d'écriture ait rendu une V2. Et donc moi je ne sais pas l'intervention qui était celle de Coben après, mais j'ai cru comprendre qu'elle avait été réelle, et il y a eu aussi des séances de travail auxquelles on n'a pas assisté à New York. Au tout début du processus, c'est-à-dire pour passer du...
Et donc là, il a réécrit certains éléments que vous avez... Enfin, certains épisodes, peut-être Non, vous ne savez pas. Ça répond à ma question, tu n'en as pas lu, quoi. Enfin, tu n'as pas vu le résultat.
Non, de toute façon, je n'ai pas vu pour l'instant les scripts de tournage.
D'accord.
Mais je sais qu'il y a des auteurs français qui ont, de toute façon, réécrit en partie les choses. Je ne sais pas quelle a été l'implication de Coben à ce stade-là. Il faudrait demander aux gens qui savent.
on va terminer un petit peu avec les influences. Alors, tu es cinéphile, donc il y a beaucoup de cinéma dans ça, mais au niveau série télé, au niveau même livre, qu'est-ce que tu regardes en ce moment? Qu'est-ce que tu suis assidûment?
Je profite de ce que tu disais à l'instant sur le côté cinéphilique pour prolonger un truc qu'on disait tout à l'heure. Oui. C'est frappant parce que là, je parlais de l'époque où j'étais M6, là où j'ai découvert, entre guillemets, hein, le choc série avec Urgence, etc. Urgence, X-Files, Friends. C'est frappant, c'est assez troublant d'être. Ça m'arrive pas très souvent de sentir que mon expérience personnelle rejoint, enfin, fait partie d'un mouvement, d'une espèce de tsunami, de vague globale. C'est un drôle de truc, quoi. Sentir partie prenante d'un phénomène culturel comme ça, aussi marquant, aussi fort. Mmh. L'autre chose, c'est que là, j'ai bien conscience, en rencontrant des gens plus jeunes, qui sont des jeunes scénaristes qui ont un peu plus de 20 ans, ou entre 20 et 30 ans, que pour eux, justement, comme ils ont grandi, ils sont passés à cet âge capital, là, entre 10 et 20 ans, avec des séries de cette qualité-là, du coup, le cinéma a une importance. Enfin, je ne veux pas parler de manière trop générale, parce qu'après, ça dépend des individus, mais j'ai pu constater, en discutant avec certains, que le cinéma avait une place totalement différente pour eux et oui. pour moi, quoi. Ça c'est vraiment un très frappant. J'ai travaillé avec des étudiants de la FEMIS aussi, du fameux cursus série, et là c'est pareil, c'est des gens qui connaissent extrêmement bien et de manière très, très pointue et intelligente les séries, et par contre le cinéma n'a pas du tout la même place pour eux qu'il en a eu pour moi, et probablement pour les gens un peu plus âgés, quoi. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que je regarde assidûment en ce moment?
Déjà, est-ce que tu vas, je vais pas dire aussi souvent, mais est-ce que tu vas souvent au cinéma? Ou est-ce que, du coup, tu...
Non, je vais beaucoup moins souvent en salle que j'y allais quand j'étais critique, parce que quand j'étais critique, en gros, oui. j'allais 3 fois par jour, hein. C'est pas compliqué, quand c'était pas 4 ou 5, donc...
C'est difficile à maintenir. Hein,
c'est difficile à maintenir, ouais.
Faut travailler
tout au long d'une vie, ouais, c'est ça. Faut travailler, faut bon. Donc ça, de toute façon, c'est sûr que non. Indépendamment de ça, la consommation a quand même changé, je pense. Enfin, même si je suis pas sûr que la fréquentation ait vraiment baissé radicalement. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est vrai que je vois beaucoup plus de films en DVD qu'avant, et donc je continue à regarder beaucoup de films. Il faut bien avouer que je regarde quand même aussi beaucoup de films que j'ai déjà vus, ou des films, j'allais dire anciens, en tout cas anciens pour les gens, encore une fois, qui sont jeunes, qui considèrent qu'avant les années 70, c'est ancien, donc, ou même avant les années 80. Donc c'est vrai que quand je regarde un film des années 70, j'ai conscience que maintenant je regarde un vieux film. Bon. Et comme j'aime beaucoup cette période-là du cinéma américain, par exemple, je regarde pas mal. Et alors en série, c'est-à-dire qu'en série... c'est par période, c'est-à-dire que il m'arrive de regarder effectivement pas mal d'épisodes d'une même série à la suite, et puis ça alterne avec des périodes où je me dis, parce qu'il y en a tellement évidemment qui se font, où je me dis tiens, j'aimerais bien avoir une vision un peu plus globale, etc., et où là j'essaye de me documenter un peu et de choper quelques pilotes, quelques premiers épisodes, même si c'est des séries qui ont déjà quelques mois, mais j'essaye de regarder comme ça des pilotes pour au moins avoir une couleur, une idée. Alors,
une idée de la tendance.
Ouais, c'est frustrant parce qu'évidemment, regarder un pilote, ben, on peut très bien regarder un pilote et être déçu ou pas accroché, alors qu'en fait...
ça s'améliore, ça change.
Voilà, si je m'étais arrêté au pilote de The Wire, j'aurais sans doute pas regardé la série, ce qui est idiot. Donc voilà, j'ai bien conscience que, mais bon, en même temps, qui a trouvé le moyen de regarder tous les épisodes de toutes les séries qui sont...
Même les critiques américains, ils le disent eux-mêmes, ils ont... Voilà. Enfin, y a tellement de choses, et y a tellement de diffuseurs, il y a tellement de...
Donc voilà, donc j'essaie de l'alterner entre des percées verticales et des percées horizontales pour me faire ma propre image des séries.
Il y en a une que tu suis vraiment assidûment en ce moment, un titre qui te vient en tête, pas forcément
Non, assidûment, en ce moment-là, non, ça ne me vient pas. Peut-être parce que je regarde un tout petit peu moins de séries là, mais ça va revenir. Je sais que la dernière série que j'ai regardée, entre guillemets, en entier, c'est la série de Soderbergh.
D'accord.
Parce que c'est pas si long et parce que y a quand même, y a quand même un saut dans la réalisation qui fait que. Ça m'intéressait de voir comment il se débrouillait avec ça, et je suis assez convaincu, enfin en tout cas c'est mon opinion, que c'est quand même supérieur à ce qu'il fait au cinéma, quoi.
C'est pas faux.
Enfin, en tout cas, à ce qu'il fait au cinéma, ce qu'il a fait au cinéma dans les derniers temps.
Oui.
Je trouve que finalement la série télé lui convient très très bien. Je crois que j'avais vu un épisode, mais je me souviens plus bien et j'avais pas vu les autres de cette série. Qu'il avait faite K Street, c'est pas ça?
K Street, oui, tout à fait. Je crois que c'est pour HBO avec.
Histoire de politique.
Ouais, avec John Slattery, un mec qui joue dans Mad Men.
Oui, je vois très bien qui est John Slattery. Ah, c'était lui qui jouait le rôle.
Il me semble bien, ouais.
Faudrait que je jette un œil là-dessus parce que j'avais pas trop fait gaffe à l'époque, mais là, en voyant. Il se trouve que j'ai vu il y a pas très longtemps, probablement peut-être à cause de Nick, Magic Mike et Ma vie avec Liberace. Et même si c'est des films tout à fait honorables, je trouve pas que ça ait la force de Zonic. Et du coup, je me dis qu'il est plutôt meilleur.
Elle est intéressante, sa démarche. Du coup, je suis souvent un petit peu réticent quand un réalisateur de cinéma vient à la télé parce qu'il vient réaliser le premier épisode. Son nom reste associé au truc jusqu'à la fin, même si au final il n'a aucune influence sur le reste de la série. Là, il vient, il réalise tous les épisodes, donc on peut dire pour le coup que c'est une série de Steven Soderbergh parce qu'il a posé son nom sur toute la série.
Alors après, ce qui est compliqué, c'est qu'on ne parle que de lui, quoi. Du coup, on parle beaucoup moins des scénaristes.
Ça vampirise vraiment.
Alors qu'il y a un boulot de scénario qui est moins, probablement, à vue de nez comme ça, qui est moins révolutionnaire en quelque sorte que le traitement visuel qu'il en donne. Mais qui n'empêche, c'est très cohérent et qui est vachement intéressant. Dans le cas de Trou Détective, par exemple, on dit que c'est une série de
Nick Pizzolatto, alors que Fukunaga
a réalisé tous les épisodes. Bon,
c'est encore le même réalisateur qui va réaliser. Enfin, c'est pas le même réalisateur, mais
c'est
ça sera. C'est Justin Lin, je crois, qui réalisera.
Qui fera tous les. Ouais.
Et bon, moi, j'aime pas Trou Détective.
Ça c'est un autre problème.
Un autre problème.
Ça fait partie des choses que j'ai vues en entier aussi, d'ailleurs, dans les derniers mois. Suivre assidûment là en présent non et d'ailleurs si je repense aux séries que j'ai vues intégralement il y en a pas non plus tant que ça. Il y a les séries dont j'ai vu quelques épisodes, c'est sans doute la majorité. Il y a les séries dont j'ai vu une ou plusieurs saisons en entier mais sans avoir vu la totalité de la série, et il y a les quelques rares séries dont j'ai vu la totalité mais il y en a il y a les séries de Milch, enfin je parle pas de NYPD Blues, j'avais pas vu la totalité, mais il y a Deadwood, John from Cincinnati et Luck. Il y a Breaking Bad quand même si je suis peut-être moins dithyrambique que d'autres. Il y a The Wire, forcément quand même.
L'attrait de la série du câble qui a moins d'épisodes par saison aussi, ça la rend plus pratique.
Probablement, j'allais citer une série qui est plus très... en vogue, enfin si elle l'a jamais été, qui s'appelle Once and Again.
C'est vachement bien.
Seconde chance de
très belle série.
Zwick et Herskovitz, que j'ai vu à l'époque où on faisait H sensible. C'était ceux qui connaissent. Si ça existe, les deux séries vont peut-être voir quelques petites passerelles entre les deux d'ailleurs.
Il y a une sensibilité commune. Hein. C'est une écriture fine. Once and Again, c'est une série vraiment, et pour le coup, très très méconnue et qui était une série de network.
Absolument.
Tout ce qu'il y a de plus basique. Quoi.
Absolument. Et vraiment une grande qualité. Ouais. C'est vraiment exemplaire sur le traitement des personnages, parce que là on peut pas dire qu'on est maintenu par un suspense
non pas du tout, c'est des enjeux très 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 très
très quotidiens,
très quotidiens, et pourtant c'est bouleversant quoi.
Ouais. donc ça fait partie des choses. Et Murder One dont je citais tout à l'heure, ça c'est les séries dont je pense pouvoir dire que j'ai vu tous les épisodes, mais il y en a pas tant que ça.
Merci beaucoup Olivier d'avoir participé à ce numéro de Dialogue d'auteur.
Merci à toi de m'avoir invité, j'espère que ça aura un peu d'intérêt pour les personnes qui écouteront.
Moi, ça m'a intéressé en tout cas.
Bon, tant mieux.
Merci.